France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et je suis ravi d'accueillir la chanteuse Stone, dont les duos avec Eric Chardin sont restés dans toutes les mémoires. C'était au début des années 1970, l'Aventura Made in Normandie est tout un chapitre d'histoire de la chanson française que nous évoquerons ce matin à l'occasion de la parution d'un coffret chez Marianne Melody. L'occasion de revenir aussi sur les débuts de celle qui fut sacrée reine des beatniks avec sa coiffure à la Brian Jones. Avant de se tourner plus tard vers le théâtre, mais aussi passionnément vers la défense des animaux, Stone est mon invité ce matin et nous invite à la rejoindre dans son aventura. Bonjour Stone.
Bonjour Benoît.
Ça me fait plaisir que vous soyez là, de réécouter cette chanson qui me rappelle quand j'avais 11-12 ans, je rentrais de l'école, j'écoutais le hit parade et j'adorais cette valse chaloupée, bien rythmée, bien balancée. Mais sans blague, quand vous l'avez enregistrée, Stone, cet immense succès en 1971.
Oui.
Pas grand monde n'y croyait au
départ. Non, personne. Enfin, le public, heureusement, y a cru.
Assez vite, mais quand vous avez fait la chanson...
Non. Pour les médias de l'époque, c'était nul.
Mais avant même, au studio, Chardin n'avait pas tellement envie de l'enregistrer.
En fait, je le soupçonne même d'avoir fait exprès de faire une valse, qui n'était pas du tout ce qu'il fallait faire
à un moment. Ce qui était à la mode à ce moment-là.
Parce qu'il n'avait pas du tout envie de faire des duos, ça ne lui plaisait pas à la base. Donc il s'est dit, avec ça, je fais une valse, ça ne va pas marcher, on va être tranquille.
Une valse
en duo, ça va être
un bide assuré.
Donc après, je reprendrai ma carrière en solo et on sera débarrassé de cette affaire.
Et de fait, d'ailleurs, ça a commencé doucement, les médias, et notamment Europe 1, trouvait que c'était nul, il n'en voulait pas.
C'est vrai.
Et alors j'ai reçu dans cette même émission, il y a quelques semaines, une dame charmante qui s'appelle Monique Lemarcy,
qui
est venue nous raconter un petit peu son étonnante carrière à RTL.
Fabuleuse.
Voilà encore un exemple où elle a joué quand même un certain rôle.
Énorme, c'est grâce à Monique, alors vraiment on peut le dire, entre autres, il y en a d'autres, mais elle, Monique, a été extrêmement importante dans la carrière de l'Aventura, parce qu'elle y croyait, elle, contrairement à d'autres radios.
À d'autres radios, donc elle a dit... ses programmateurs, vous la passez trois fois par jour pendant un mois.
Ah oui, vraiment, on lui doit beaucoup à Monique. Oui.
Voilà. Et la chanson a explosé.
Voilà, exactement. Grâce au public qui l'a trouvé bien et qui l'a demandé. À l'époque, on allait dans les maisons les magasins de disques pour acheter les 45 tours. Quoi. Comme ça se passait.
Oui, d'ailleurs, vous soulignez dans vos souvenirs souvent que vous avez fait une grande carrière de 45 tours.
Oui, c'est vrai. plus que d'albums.
Plus que d'albums.
C'est vrai.
Ce qui justifie d'ailleurs la réédition, on en redira un mot, chez Marianne Melody.
Oui.
D'une anthologie justement de tous vos 45 tours.
De tous les 45 tours, oui. C'est
début,
énorme, il y a 4 CD dans l'anthologie.
Voilà.
Quoi faire.
Parce qu'il faut dire, donc en gros, Stone, il y a votre vie d'avant l'Aventura, qui est quand même celle d'une chanteuse déjà très active, même s'il n'y a pas eu de très grand succès.
Bien sûr.
Puis il y a la vie d'après avec les immenses tubes et tout ce qui va suivre. C'est ce qu'on va se raconter peut-être un peu aujourd'hui, si vous êtes d'accord.
Mais on est là pour ça. Hein.
On est là pour ça. Alors pour commencer, on va remonter encore beaucoup plus loin parce que. Vous savez, dans cette émission, j'aime bien passer un peu d'opérette. Il se trouve que votre mère adorait l'opérette et qu'elle en a chanté quelques-unes, et notamment celle-ci que j'adore, qui s'appelle « Ta bouche ».
Pour tout ce que nous faisons, pauvres femmes, on nous blâme, sans jamais chercher au fond de notre âme ce que nous pensons. Dès qu'on prend un riche amant, on s'exclame, c'est infâme, c'est infâme, sans songer que c'est seulement pour notre âme, notre âme blâme. La femme par nature est une créature qui n'a que de très bons sentiments, mais sa bonté même, sa faiblesse extrême, l'expose à de mauvais jugements. Que nous sommes, nous mentons. Mais si nous mentons, c'est bien, c'est pour ne point faire de chagrin. Non, 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 jamais les hommes ne sauront ce que nous sommes, nous mentons. Mais nos cœurs sont effrontés, puisque c'est toujours pour le bon motif.
Non, non, jamais les hommes ne sauront.
Tabou, opérette de Maurice Ivac.
Il y a un côté désuet, c'est
désuet.
Joli.
Enlevé en
enlevé,
même temps.
Enlevé, oui.
C'est les années 20, le
c'est
Charleston.
Ça,
et alors, votre mère,
oui.
Donc, Stone, était une amoureuse de l'opérette et elle a même un peu commencé une carrière d'opérette.
Ah, bah, c'était dans son idée, quoi, de devenir chanteuse, hein, puisque, étant à Paris, déjà, c'était pratique, puisqu'elle avait fait un peu d'études de couturière, mais ça ne l'emballait pas plus que ça. Par contre, elle avait.
Elle
n'avait
pas de grands moyens de
elle
famille.
Avait, non, non, non. Donc, elle s'est présentée à des auditions, puis elle a été engagée sur Ta Bouche, sur cette pièce-là, sur une autre pièce appelée La Vie de Château. Mais malheureusement, elle est tombée très mal en pleine période de guerre, quoi.
Voilà, où, c'est ça, oui.
Où les conditions étaient très dures.
Elle mais elle racontait... a quand même eu donc la possibilité de se chanter,
oui, de chanter
sur la scène,
oui,
de
oui,
Mogador.
De Mogador, oui,
c'était
oui.
Quand même pas mal.
Ça n'a pas duré très longtemps, mais oui, elle l'a fait. Elle adorait ça. Mais après, elle habitait à Alfortville. Il fallait qu'elle rentre en vélo à
oui.
Minuit.
Oh là
enfin,
là, pendant la guerre. Oui.
Pendant la guerre. Enfin, elle me racontait des choses épouvantables, quoi, évidemment.
Et alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué finalement?
Eh bien, parce que mon papa, elle était déjà mariée avec mon papa.
Oui.
Moi, je n'étais pas encore née, mais je n'allais pas tarder à arriver.
Oui, et juste après la guerre,
et mon papa travaillait à la SNCF et a été muté en province.
Voilà.
Et en toute bonne épouse qui se doit, il a
de l'époque, en tout cas.
Mais même maintenant, il a fallu qu'elle le suive. Voilà. Donc, ils sont partis. Donc, elle a été obligée de tout arrêter, quoi, et de revenir mère au foyer.
Et c'est comme ça, donc, Stone, que vous avez eu, en fait, enfin, je dis Stone, d'ailleurs, à l'époque,
oui.
Hein, vous vous appeliez Annie Gautra, précisément.
Annie Gautra, oui, c'est ça.
C'est comme ça que vous avez eu une enfance itinérante au gré des nominations de votre père.
Hein. Bah oui, parce qu'en fait, il faisait l'électrification des voies de tout le Nord.
Ah,
c'est un gros travail.
Ouais.
Donc, ils étaient une équipe, et puis, il était chef de circonscription. Donc, quand c'était pas trop loin, son lieu de travail, y aller, au bout d'un moment, fallait que tout le monde déménage parce qu'il était muté dans une autre ville. Et que, donc, on a fait une dizaine de villes comme ça, voilà, à cette époque-là, avant de retourner à Paris.
Voilà, et vous étiez bien contente d'ailleurs de rentrer à Paris.
Ravie, oh là là. Oui, j'étais ravie.
Et alors, d'ailleurs, vous avez hérité un petit peu de ce goût de votre mère parce que vous avez été très marqué, vous aussi, justement, à Paris, par une représentation, notamment du chanteur de Mexico, Châtelet.
Oui. Hein. Bah oui, ma maman était toujours. Elle adorait voir le spectacle et elle m'entraînait à chaque fois.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, on en a vu pas mal. Et puis, c'est vrai que cette pièce-là, bon, le chanteur de Mexico, au Châtelet, c'était somptueux.
Hein.
Enfin, moi, bien sûr, en tant que gamine, je devais avoir 8-10 ans. Je me souviens, il y avait une espèce de jet d'eau sur scène, il y avait des trappes où alors les gens apparaissaient. Enfin, c'était incroyable quoi, pour l'époque.
Voilà.
Et c'est vrai. Et je ne suis pas la seule. Hein. J'ai lu aussi, il y a d'autres camarades à moi de mon âge qui
dans le monde de la chanson,
ont été,
même.
Oui, oui, oui. Ont été marqués par cette pièce-là. Oui. Et puis, il y avait aussi les pièces avec Annie Cordy, Bourville.
Bien sûr.
Hein, la route
les
Fleurie,
comédies, oui,
avec
si jolies.
Georges Guettari, tout ça. Voilà,
oh, la chère Annie Cordy, ici.
Oui, magnifique, magnifique.
Mais alors, comment est-ce qu'on passe de la découverte de Luis Mariano au Châtelet, aux nuits trépidantes du bus Palladium.
Déjà, il y a quelques années quand même qui se passent. Hein, il y a une petite dizaine d'années entre deux.
Voilà.
Et puis entre-temps, bah, moi...
Enfin, quand même, vous n'étiez pas encore majeur quand vous avez commencé à sortir
non,
au bus Palladium.
Non, il fallait avoir 21 ans à l'époque pour être majeur.
Voilà,
c'est ça
18,
le problème. Non, puis c'est vrai que moi... Avec ma maman, on était toujours très branchés sur les chansons et les chanteurs. Hein, ouais. Donc, moi, après, quand j'ai commencé à être adolescente, j'aimais beaucoup Sacha Distel, par exemple. C'était mon idole du moment. Puis après, évidemment, j'avais 15 ans, 16 ans, il y a Johnny qui est arrivé. Et puis, il y a eu les Chaussettes Noires, et puis les Chats Sauvages, et toute cette bande-là. Et moi, alors là, je les ai adorés. Quoi. C'était, d'ailleurs, j'ai vu Johnny à ses tout débuts. J'allais en vacances chez ma grand-mère, et je vois Johnny Hallyday qui passe à Montluçon. Et donc, toute cette génération-là a pris le pas sur tout le reste. Quoi.
Et malgré un père qui était dur, sévère, d'après ce que vous racontez, mais malgré tout, donc vous découchiez la nuit pour aller avec une copine au bus Palladium, vous dansiez toute la nuit et vous rentriez juste avant que votre père se lève à 5h du matin.
Il fallait ruser. Hein.
C'est vrai. Hein.
Oui, il fallait ruser. Oui, oui.
Et ça, quasiment toutes les nuits ou plusieurs fois par semaine.
Ça n'a pas duré très longtemps non plus. Hein. Non, ça a duré quoi? Peut-être 3 mois, pas plus.
Je sais que vous teniez plus debout. Quoi.
Voilà, exactement, parce que je travaillais en plus dans la journée. C'est ça, c'est ça. J'ai travaillé à l'Argus de la presse, donc et arriver à concilier les deux. Ouais. Mais moi, c'est vrai que j'adorais sortir et qu'on m'avait proposé d'animer les folles nuits du bus Palladium, donc je n'allais pas refuser ça.
Voilà, le patron vous avait dit, venez, voilà, comme ça vous êtes bienvenue, ça met de l'ambiance, etc. Et c'est comme ça que vous êtes devenue Miss Beatnik.
Oui, enfin, un petit peu plus tard, oui. Mais il fallait trouver le moyen de s'échapper, parce que mon papa, évidemment, n'était pas du tout d'accord dans l'idée que je passe mes nuits dans des endroits comme ça improbables.
Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que donc, dans ces années-là, donc où vous faites finalement un peu connaître dans le milieu de la nuit, vous allez très vite signer un contrat. Oui. Pour vos premiers disques, alors même que vous n'avez encore jamais enregistré une chanson.
Non, jamais, non. Mais c'est vrai que c'est une époque où les directeurs artistiques nouvellement promus dans les maisons de disques, parce que c'était souvent des petits gars qui avaient fait vaguement carrière dans la musique, comme Jean-Pierre Orfino qui a été mon premier directeur artistique, c'était le Baptiste des Pirates quand même, c'est pas rien. Et une fois qu'il a eu son heure de gloire avec les Pirates, il s'est un peu branché dans la direction artistique et on l'avait chargé de trouver une chanteuse. Voilà. Et Antoine, à l'époque, était en pleine gloire. Il avait fait les élucubrations et toutes les maisons de disques espéraient trouver une fille dans le même esprit.
Voilà.
Et trouver des chansons qui correspondent. Donc lui, il passait son temps à écumer les boîtes de nuit et les endroits susceptibles d'accueillir ces gens-là pour leur proposer éventuellement des contrats.
Vous aviez déjà vos cheveux à la Brian Jones à ce moment-là?
Oui, oui. Alors justement, je m'étais dit, là, il faut que je me trouve un look parce que ça ne va pas. Là. À l'époque, j'avais les cheveux raides, Françoise Hardy, on me disait, châtain, tout à fait classique, banal. Et puis chez ma grand-mère, justement, je regardais la photo de Brian Jones, je dis, oh, c'est bien quand même. Et allons-y, prenons les ciseaux, coupons et trouvons-nous un style particulier. Et c'est vrai que je pense que ça a été aussi important parce qu'il fallait aussi que le look suive.
Voilà, donc vous êtes devenue cette chanteuse qui est devenue Stone, voilà, puisque évidemment vous aviez cette coupe de cheveux d'un des plus célèbres des Rolling Stones, même s'il est disparu le premier. Oui. Et quelques temps après, vous avez enregistré ce premier 45 tours dans lequel figurent à la fois, comme souvent à l'époque, des adaptations de chansons anglaises, notamment des Beatles, et puis déjà des chansons originales comme « Le jour, la nuit ».
Chanter ça me plaît, le jour, la nuit. Chanter ça me plaît, le jour, la nuit. J'aime autant chanter à midi qu'à minuit. Chanter ça me plaît, le jour, la nuit. M'amuser me plaît, le jour, la nuit. M'amuser me plaît, le jour, la nuit. J'aime autant m'amuser à midi qu'à minuit. M'amuser me plaît, le jour, la nuit. Le jour, la nuit, j'aime autant.
Voilà, la petite Stone, comme on disait parfois à l'époque encore.
Oui, c'est ça. Cette chanson en question, c'était pas une adaptation, c'est une chanson d'Éric Chardin. Et deux chansons originales. Éric Chardin était intraitable quand on a signé le contrat chez Polydor, parce que lui, il croyait dur comme fer, et à juste titre, que les compositeurs français étaient aussi bons que les Anglais ou les Américains. Donc, il disait, mais il n'y a pas de raison, on va faire les chansons. Et eux, ils voulaient absolument les adaptations, parce que tous les chanteurs de l'époque faisaient des adaptations de Claude François, de Johnny.
Oui, bien sûr, oui.
Qui on veut.
Voilà. Avec Vline Bugy, en
avec
général.
Avec Vline Bugy, qui adaptait les textes. Oui, oui.
Et là, c'était donc en 66, votre premier 45 tours.
C'est bien
donc
ça.
Moitié français, moitié
oui,
adapté.
C'est ça. L'idée.
Avec ce côté rhythm and blues et un arrangeur Jean Bouchetti.
Jean Bouchetti à l'époque,
hein, qui était une grande
pointure. Oui, une grande pointure, qui est déjà quelqu'un de plus âgé que nous. Quoi.
Ouais,
oui,
c'est
oui.
Ça, oui.
Après, quand il y a eu Jean-Claude Petit, bah, c'était un gars de nos âges. Quoi.
Voilà.
C'était différent.
Mais alors, c'est donc comme ça que vous avez rencontré Chardin, en fait. Éric Chardin, au moment où vous avez commencé, au fond.
Oui,
à,
c'est ça.
Parce que lui était déjà un jeune auteur, compositeur, interprète en vue.
Il avait quelques années derrière lui. Il avait commencé en 63. C'est
oui,
fou.
C'est ça,
hein.
Voilà.
Et lui, il était tout à fait dans le style.
Il voulait être Jacques Brel un peu.
Jacques
oui, c'est
Brel,
ça,
c'était son
oui,
c'est idole. Ça, ouais. Brel, c'était. Et il était tout à fait dans ce style-là, quoi. Il n'était pas du tout rock'n'roll ni quoi que ce soit, quoi. Il avait malheureusement pas eu le succès escompté. Il a eu un petit succès avec le Printaniste qui avait quand même remporté un prix à Anguin. Oui. Bon, ça allait pas bien loin. Et puis voilà, mais il n'était pas du tout branché dans les nouvelles musiques, quoi. Il était resté très classique, disons.
Voilà, mais vous avez eu une espèce de coup de foudre l'un pour l'autre. Hein, vous racontez votre rencontre, vous êtes jetés l'un sur l'autre quasiment.
Un peu plus tard,
Un peu plus tard, après avoir travaillé un peu ensemble justement à ses premières chansons. Donc il a en partie écrite.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Non, parce que moi j'avais déjà signé mon contrat chez Polydor.
Voilà, c'est ça.
Avec mon fameux directeur artistique, là, qui finalement, j'avais fait une audition. Et puis, j'ai pas enregistré parce que je n'avais pas de chanson. Comment faire pour enregistrer un disque sans chanson? C'est complètement invraisemblable. Et puis on n'osait pas s'adresser au... Je me rappelle, il y avait Charles Aznavour qui avait fait La plus belle pour aller danser et tout ça. Oh, je me disais, quelle chance, où retient la nuit et tout. Et puis tous les autres compositeurs, auteurs, on ne les connaissait pas, quoi. Donc c'est eu quand même 3-4 mois où il ne se passait rien. Et puis là, il y a où Éric Chardin intervient, c'est qu'il y a cette fameuse élection de Miss Beatnik, enfin que c'était vraiment plus un gag qu'autre chose. Je participe avec mes copines là à ça, je suis élue, puis en plus le prix c'était un aller-retour à Londres, alors rien que pour ça, j'étais ravie d'être élue. Et dans l'assemblée qui était là, Éric Chardin s'est retrouvé un peu contraint et forcé. Ce soir-là, évidemment, vu son moral qui était au 36e dessous, il a un peu picolé, quoi. Il a beaucoup picolé même. Et moi, je ne l'ai pas vu, quoi, parce que tellement il était complètement HS, quoi. Et c'est après, quand il est revenu plus tard, qu'on a pu échanger. Et c'est là qu'il m'a dit, mais moi, je fais des chansons. Alors rien que pour ça, c'était l'idéal.
Et donc après, vous êtes vraiment tombé amoureux.
Oui, après on s'est...
Et vous êtes marié très vite d'ailleurs.
Très vite, il fallait, parce que là, pour le coup, étant mineur, mon papa m'aurait jamais laissé partir, faire
émancipé,
des choses innommables avec un garçon.
Voilà, et les années donc ont suivi au rythme qui vous était imposé, hein. Fallait sortir des 45 tours régulièrement.
Ben, on avait, tous les chanteurs avaient des contrats comme ça, très draconiens, disons, et puis les 45 tours de l'époque, 4 titres quand même.
Ils n'ont pas été des grands succès, il faut dire. Hein,
il faut en sortir 4 par an, quoi, en gros.
Et puis tout d'un coup sont arrivés, alors peut-être des morceaux qui ont un petit peu mieux marché. Je voulais qu'on écoute deux extraits d'un morceau, d'abord d'une chanson de vous, c'est Vive la France.
Oui, Vive la France, mais que je chante encore.
Que vous chantez encore, mais ça c'est en 67 seulement.
C'est ça, c'est juste l'année d'après.
Et c'est déjà un peu plus votre style, on peut dire, peut-être.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis au même moment, en 68, alors c'est Chardin qui lui a un très grand succès avec Le Monde est gris, Le Monde est bleu.
Énorme.
Y a du soleil et du ciel bleu partout. Y a des oiseaux. des bleus. Et la tristesse brûle mes yeux.
Et voilà, ça c'était donc ça, Stone et Chardin, mais séparément. En 67-68, lui à la, dans cette chanson à la recherche de l'amour, mais il l'avait déjà trouvé puisque vous veniez de vous marier. Et vous qui chantez la France, c'est un peu décalé de l'époque 68-art, de cette vision.
Bien sûr.
Sur des paroles...
De Franck Thomas et Jean-Michel Rivard.
Voilà, qui vont devenir vos paroliers attitrés. Et qui aimaient bien d'ailleurs ce genre. C'est curieux parce que je crois qu'un des deux était un communiste très engagé.
Ah, Franck, bien sûr. Énorme. Voilà. Et l'autre était bouddhiste.
Et l'autre était bouddhiste, mais ils aimaient bien ce côté bleu, blanc, rouge
ça, complètement.
Ouais. Dans les chansons. Ouais. Deux chansons qu'on... Alors, celle de Chardin, c'était un grand tube.
Oui, énorme.
Et puis Vive la France, c'était un bon...
Un petit succès.
Un petit succès, voilà. Ouais. Donc, voilà, vous étiez mariés, il faisait des chansons pour vous, il faisait des chansons pour lui, et puis finalement, il fallait que le duo naisse, c'était pas prévu.
Non.
Il y a eu... une certaine circonstance, une chanson que... Assez osé d'ailleurs le titre.
Le seul bébé qui ne pleure pas. C'est celui qu'on est en train de faire.
Et voilà. Et alors, donc cette chanson, oui, vous deviez la chanter toute seule ?
Oui, alors j'avais toujours mon contrat, le fameux. Enfin, j'avais changé de maison de disque, mais à l'arrivée, il y avait le contrat qui, donc, le fallait forcément enregistrer à 45 tours. Déjà, il n'y avait plus que deux titres, donc c'était moins grave.
Ouais.
Et puis, Franck et Jean-Michel nous proposent ce texte, donc on trouve un peu... Très, très original, quoi, quelque part. Et puis voilà, et puis au moment où on l'enregistre, alors on ne se rappelle même plus qui a émis l'idée qu'Éric fasse une voix derrière. Je pense que c'est ou Charles Tallard, notre producteur, ou les auteurs, en disant ça serait sympa qu'Éric fasse
voilà,
juste des petites choses.
Il intervient une fois ou deux.
Voilà. Ils interviennent une fois ou deux, c'est un peu l'idée. Et puis voilà, on a fait ça.
Il y avait son nom en dessous du vôtre, en plus petit, sur le disque.
Avec la participation d'Éric Chardin.
Et ça a très bien marché.
Et ça a très bien marché. On a été les premiers étonnés, parce que la chanson était quand même originale, quoi. Elle n'était pas, c'était pas évident. Et puis là, alors évidemment, tout le monde nous est tombé dessus en disant, bon, ben, la prochaine, là, il faut que ce soit à duo, à moitié-moitié. Hein. On ne peut pas faire autrement, quoi.
Alors, on va y arriver, mais je voulais d'abord vous faire écouter un petit document amusant à propos de bébé. Parce que j'aime bien aller chercher les vieilles archives de mes invités dans nos archives de radio. Ah, c'est la plus ancienne que j'ai trouvée. Hein. Ah. C'est un interactualité Jean-Marie Cavada, 7 sur 7.
Oui.
Et voilà, un petit bout de la chanson, justement, et puis vous, après.
Le seul bébé qui ne pleure.
Pas pour l'instant.
C'est un garçon.
C'est un garçon, oui.
Et vous allez l'appeler comment ?
Baptiste.
Il est bien fait ?
Ah oui, manque rien, ce côté-là. Oui.
Vous êtes une mère heureuse, alors ?
Parfaitement, oui.
Comment a réagi votre mari ?
Ah bah lui, il est dans tous ses états, évidemment. Il n'a pas dormi de la nuit. Enfin, il est content quand même. Très, très content.
Bref, on se demande à entendre cette émotion si ça n'est pas le père qui a eu toutes les difficultés de l'accouchement. Je vous rassure tout de même, ce seul bébé qui ne pleure pas, c'est celui de Stone et de Chardin. Ce couple vient en effet d'avoir un petit garçon, sa maman vous l'a dit à l'instant, il s'appelle Baptiste. Je vous rassure, cette naissance n'empêchera pas pour autant le plus célèbre couple du moment, du micro-sillon, de faire son tour de chant cet été. Ah oui, et puis j'oubliais, on ne sait pas encore quand Baptiste va enregistrer son premier disque, mais vu la façon dont s'y sont pris les parents, je pense que ça ne devrait pas tarder. De toute façon, nous vous vous tiendrons, bien sûr, au courant.
Dans les collines, les champs et les vignes.
Voilà, c'est amusant.
C'est mignon, oui, je me souviens plus du tout de ça. Plus du tout. Ouais.
La naissance de votre
de
fils,
ouais,
Baptiste, qui est effectivement devenu musicien.
Ah non, pas
non,
musicien. Non,
pas
non,
du
il
tout.
Joue pas d'instrument,
non.
Il chante. On chante ensemble.
Oui, donc il est musicien.
Oui, non. Parce que musicien, il faut jouer d'un instrument pour être musicien.
Ah bon, d'accord.
Il joue pas d'instrument. Enfin, si, il joue un petit peu du ukulélé, mais bon. Non, par contre, on fait des galas ensemble. Il a remplacé
voilà,
son père et
que
ça
je
se passe
dire,
très, très
voilà.
bien.
Il est devenu artiste, disons.
Il est devenu artiste, oui.
Voilà, enfin, ça, c'est au tout début, parce que l'enfant a suivi le duo. Enfin, tout ça est arrivé en même temps.
C'est vrai.
Et donc, voilà, on se retrouve au fond de là où on est parti. La Ventura, donc, arrive avec ce succès considérable. Combien d'exemplaires vendus?
Oh là là, 3 millions, je crois, enfin, des 45 tours.
3 millions de 45 tours,
énorme.
D'ailleurs, je vérifiais les dates, parce qu'après, je me disais, mais au fond, je me rappelle de ce que j'entendais à l'époque, mais Laisse les gondoles à Venise, c'est bien après. C'est deux ans après.
Oui, c'est pas bien après, c'est un peu après.
C'est Ringo et Sheila qui ont voulu faire comme Stone et Chardin, en fait.
Bien sûr, mais pas que. Johnny et Sylvie aussi ont fait comme nous.
C'est ça, mais c'était vous qui avez montré la voie.
Eric, on était extrêmement fiers de ça.
Ah,
parce que jusqu'à... En plus, c'est ça qu'on avait, le problème qu'on avait, c'est que tout le monde nous disait, mais les duos ne marchent pas en France, ça marche pas. C'est une catastrophe, les gens n'aiment pas ça. Et plusieurs s'y étaient essayés, mais il n'y a jamais eu le gros succès escompté. Alors qu'aux États-Unis, c'était la folie. Il y a Sonny and Cher qui cartonnait grave, les Carpenters, tout ça. Mais bon, alors c'est pour ça que déjà, on n'était pas non plus emballés à l'idée de chanter ensemble, quoi. Parce que vu ce qu'on nous en avait dit, quoi, c'est à. Et grâce à nous, comme le duo a fonctionné, et qu'après, il y a eu d'autres titres aussi qui ont bien fonctionné, les autres chanteurs
se sont mis à faire des duos.
Que vous connaissez se sont mis à faire des duos avec grand succès aussi.
Avec grand succès aussi,
oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Enfin, vous, les succès, on peut dire, vous les avez vraiment enchaînés. Après l'Aventura, il y a du soleil sur la France, encore, ça se compte en millions encore.
Oui, c'est vrai, beaucoup.
Et avec toujours cette équipe, donc Riva,
Thomas.
Jean-Claude Petit pour les arrangements.
Oui, c'était la même équipe tout le temps, oui.
Voilà, et c'est une bonne équipe, il faut dire.
Oui, c'est une très belle équipe. Il n'y a qu'un titre que Yves Desca a écrit. Voilà, ça a été les seules paroles qui ont été en dehors de Riva et Thomas.
Vous dites d'ailleurs dans un livre, en fait, le studio, ça ne vous passionnait pas trop?
Ah non,
vous
moi, le studio, j'ai toujours détesté. Non.
L'enregistrement.
Ah, déjà, à l'époque, c'était très enfumé. Ils fumaient tous comme des pompiers là-dedans. C'était l'horreur, quoi. Donc, ce n'était pas agréable. Et puis,
préférais la scène.
Je préférais la scène. Ouais. Et puis, surtout, beaucoup de temps à passer, à bidouiller les techniques, tout ça, qui n'était pas mon truc du tout.
Ah, du tout.
Donc, je venais chanter le plus vite possible et je repartais. J'avais énormément de choses à faire. En plus, donc ça tombait bien.
Et par contre, sur scène, vous étiez très présente, y compris enceinte de Baptiste.
Oui, on a fait des galas assez tard. Oui. On nous avait dit, comme t'es enceinte, on va prendre le train parce que la voiture, c'est pas recommandé. Mais comme on est toujours en retard, on se piquait des sprints pour prendre le train. Baptiste, le bébé, il a bien été agité là pour ça.
Mais en même temps, ça a été un peu du jour au lendemain, si j'ose dire, la vie de château, une villa en Provence, un immense appartement à Paris. Enfin, vous avez pu tout vous offrir. C'était un rêve d'adolescent qui se réalisait.
C'était un rêve, mais le souci, c'est qu'on n'en profitait pas, vu qu'on travaillait tout le temps.
Ah oui.
Et voilà, c'est une question aussi de disponibilité. Hein.
Oui.
Quand on peut justement profiter de ça. Mais nous, on était en 73, on a fait 300 galas. C'est complètement délirant.
Oui, on peut pas en profiter vraiment.
Ah mais non. Ouais. Alors aussi bien mon fils que je m'en suis pas occupé à l'époque et pour cause. Heureusement, j'avais quelqu'un de toute confiance pour ça. Mais même ce qu'on avait, on n'en profitait pas.
Alors il y a une autre chanson. Vous savez, je suis normand. Oui. Hein, on se corrige pas que je voulais écouter maintenant. Donc autre grand succès, c'est le deuxième plus grand succès après.
Oui, après la Ventura.
Made in Normandie, c'est amusant d'ailleurs. Oui. D'où est venue cette idée?
Vous savez ça, c'est les auteurs qui sont responsables.
Qui en sont responsables, mais elle est bien.
L'idée était sympa.
Et c'est donc toujours Eric Chardin qui a fait
la
musique,
ouais.
Les paroles coécrites de Riva et Thomas et les arrangements de Jean-Claude Petit.
Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français,
La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée. Mais dans le cœur, j'ai toujours gardé
les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerises.
Voilà, c'est toute mon enfance. Made in Normandie, c'était évidemment Stone et Chardin en 1973. Encore un immense succès, ça s'enchaînait, ça ne s'arrêtait pas.
C'est vrai.
Et pourtant, il y a eu comme une espèce de, un peu d'essoufflement vers 74-75, aussi bien musical que amoureux.
Ah oui, en même temps, oui, en même temps. Vraiment, on n'en pouvait plus. Là, on avait été pressés comme des citrons pendant pas mal d'années.
Ah oui.
On n'avait qu'une idée, c'est de, voilà, de laisser un peu tomber tout ça, à tous les niveaux. Oui.
Voilà, et puis tout d'un coup, vous réalisiez que vous étiez marié depuis presque 10 ans.
Presque 10 ans, oui.
Et puis que vous n'aviez finalement pas eu d'autres aventures, expériences, etc.
Non, c'est vrai. Ouais, voilà. Il fallait qu'on passe à autre chose. Ouais. Aussi bien, c'est arrivé en même temps. C'est aussi bien pour lui que pour moi. Donc, il n'y a pas eu un qui est resté sur le carreau, comme souvent dans les couples.
Oui,
quand
oui,
se
oui.
Et puis, on a eu la chance aussi de retrouver quelqu'un très vite, une autre personne dans nos vies.
On peut dire que vous avez une façon de vous séparer idéale, si on peut dire, puisque vous avez chacun trouvé quelqu'un à peu près en même temps. Et même, vous avez continué à habiter tous le même appartement.
Ensemble, oui, oui, on a habité ensemble.
Aux deux extrémités, les deux chambres.
Il y avait assez de place pour ça, oui, oui. Mais oui, comme on répétait mes flowers à l'époque et qu'on était tous dans la... Enfin, Eric n'était pas sur scène, mais il était compositeur, donc il était là. Donc, il fallait aller tous les jours au même endroit, on répétait à la salle Pleyel, et puis voilà, c'était plus pratique de cohabiter.
Donc, il n'y a jamais eu de fâcherie.
Jamais, jamais. Non, non, surtout pas. Ah non, 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 surtout pas.
Il y avait
pas,
simplement Madame Chardin-Mère qui était un peu contente d'avoir récupéré son
voilà,
fils.
C'est ça, voilà, c'est ça, oui, c'est un peu l'idée. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais. En tout cas, voilà, votre fils a grandi comme ça, oui. Entre sa mère et son père.
Complètement. Je trouvais ça normal. Pour lui, c'était traditionnel, classique.
Et alors, c'est donc à ce moment-là, effectivement, qu'Éric Chardin, toujours très actif dans le monde de la chanson, du spectacle, etc., décide d'écrire une comédie musicale qui s'appelle Mayflower.
C'est ça.
Et ça a été pour vous aussi une très belle aventure, puisque vous faisiez partie de la distribution.
Bah, c'était un peu, là, on en revient aux opérettes. C'était un peu la continuité,
la suite
des opérettes.
Sauf que c'était sujet américain, là.
Voilà,
encore,
complètement. Donc moi, j'étais déjà... j'adorais les comédies musicales, bien sûr. Oui. J'en avais vu plein. Toute la grande période de Ginger Rogers et Fred Astaire, tout ça. Bon,
j'adoriez.
J'adorais. Et puis
vous
après...
dansiez
oui, je dansais comme ça, tout à fait tranquille. Et puis après, tout ce qu'il y a eu par la suite. Hein, après, on est passé par tout ce qu'il y a eu comme énorme succès époque-là. Et Eric, depuis déjà pas mal d'années, il était toujours dans l'idée de faire une comédie musicale. C'était son truc, quoi.
Voilà.
Et il avait vu, quand il était plus jeune, un film qui s'appelait Capitaine Courageux avec Spencer Tracy, qui n'était pas une comédie musicale, mais qui était l'histoire un peu ces émigrants qui arrivent en Amérique.
Voilà.
Et avec Guy Bontempelli, qui est extrêmement important, puisqu'il a écrit tout le texte, à la fois parlé et chanté. Et donc, ils se sont mis au boulot, ils ont travaillé tout un été ensemble. Et Mayflower a vu le jour.
Voilà. Et ça a été créé à Washington ?
Oui, ça a été créé à Washington, parce que ça tombait juste, c'était le centenaire de l'indépendance américaine. On a donc eu le bonheur de nous produire à Washington, en français.
Alors cette troupe de Français qui venait chanter en français l'histoire du Mayflower devant les Américains,
bah oui,
et ça a été très bien accueilli.
Et ça a été très bien accueilli, en plus, à l'époque, il y avait tout le gouvernement du moment, ils avaient un petit fascicule...
Gérald Ford.
Un petit fascicule avec les textes traduits, pour qu'ils comprennent quelque chose, qu'on chantait en français, on parlait en français. Et c'était en fait l'histoire, voilà, des Européens qui se sont, à un moment donné, installés aux États-Unis, voilà, en Amérique.
Ensuite, la pièce a été donnée à Paris avec beaucoup de succès.
Oui,
là,
on a joué un an.
Un an, c'était dans
un
quel
an
théâtre?
Un an, Porte Saint-Martin.
À la Porte Saint-Martin. Théâtre
on a joué de janvier
à...
Oui, bien sûr. Oui. On a joué de janvier à décembre, quoi, donc... avec beaucoup de succès, oui, ça a été.
Alors, un disque a été fait ensuite, mais alors, oui. Vous n'y êtes pas dans la distribution du disque.
Non, parce qu'à l'époque, Eric, bon, on était séparés déjà à ce moment-là, donc Eric avait rencontré Pascal Rivaud, qui jouait dans Mayflower aussi, et bien sûr, elle avait fait, c'est elle qui avait un petit peu pris les choses en main et avait fait le disque. Mais moi, j'étais là tout le temps, de toute façon, j'étais toujours dans les parages.
Hein, et puis, vous avez vécu ça aussi, vous le dites très bien, comme l'histoire d'une bande d'amis, hein, avec lesquels vous êtes rapprochés, qui sont restés pendant des années.
Toujours, on est restés très amis avec la plupart d'entre eux.
Ça
a été une rencontre extraordinaire. Oui, oui.
Voilà.
Et on a passé un an, mais de bonheur total, parce que déjà sur scène, ça se passait très bien. Le public était là. Et puis après, bon, bien sûr, les afters étaient très joyeux, parce qu'en général, ça se passait chez moi. On mangeait à la maison, parce que j'habitais pas loin de.
Pourtant, votre appartement était tout petit à ce moment-là.
Tout petit, mais il y en avait qui étaient sur le palier, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer.
Voilà.
Et je préparais des grands plats et après le spectacle, on allait manger à la maison.
Voilà,
et
Mayflower, puis voilà. Oui, en Mayflower, tout cas la comédie musicale d'Éric Chardin et Guy Bontempelli.
Et Guy Bontempelli.
Voilà. Et puis, parmi vos amis, tiens, je voudrais en écouter une. J'avais eu la grande joie de la recevoir dans l'émission il y a déjà fort longtemps. Je ne sais pas si vous voyez toujours avec Charlotte Julien.
Avec Charlotte, est toujours en contact. Toujours.
Ça avait été aussi des succès très, très importants dans les années 70. Il y avait Allez hop, tout le monde à la campagne d'un côté, puis de l'autre, Je suis une fleur de province.
Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive à faire ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince. Malarrosée depuis toujours.
France Musique. Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Voilà Charlotte Julien, ça me fait plaisir de la réécouter.
Oui, moi aussi, Stone. Moi aussi, super.
Très jolie chanson à succès de l'époque de votre amie Charlotte Julien. Donc à cette époque où les choses donc changent un peu pour vous, d'abord vous avez votre nouveau compagnon qui s'appelle Mario, d'Alba, qui a lui-même une histoire de famille d'ailleurs assez extravagante.
Extravagante, c'est le mot.
Passant par Monaco, sa grand-mère qui était un peu comme Liane de Pougy et Claude Méron, une grande cocotte.
C'est tout à fait ça. Oui, il y aurait de quoi raconter là-dessus.
Voilà, et puis les années passant, vous avez eu aussi l'envie de vous frotter au théâtre, et notamment justement d'ailleurs avec Charlotte Julien, et dans d'autres spectacles. Ça a commencé comment le théâtre avec les Jeanne?
Non, ça c'était après. Enfin, les Jeanne, on était amis avec les Jeanne, qui avaient un succès énorme à la Pizza du Marais. Bah, on était en plein boom avec le Splendide, avec toutes ces pièces qui ont été créées. Le Père Noël est une ordure, les Bronzés.
Et vous avez joué avec les Jeanne
Oui, bien sûr, plus tard.
Et c'est vrai qu'on était avant.
Oui, c'est ça. On était vraiment dans ce milieu. On côtoyait beaucoup ces comédiens-là. Oui. En plus, Mario était très ami, toujours très ami avec Roger Miremont, avec qui ils avaient monté une pièce. Ça s'appelle On vous écrira, dans un petit café-théâtre, le théâtre des 400 coups. Et on était toujours branchés avec toute l'équipe du Splendide, avec Bougenat, tous les débutants du moment, quoi. et puis on s'est dit avec Charlotte, tiens, ça serait marrant qu'on fasse une pièce où on raconterait nos aventures de, surtout les siens, d'ailleurs, parce qu'elle a eu des anecdotes. C'était vraiment la caricature de la provinciale qui arrive.
Comme dans la chanson.
qui était évidemment, qui se laissait avoir par des choses éventuellement qui débouchaient sur rien par la suite. Donc, on voulait raconter tout ça, voilà. On voulait raconter nos petites histoires de jeunes chanteuses. Et puis, comme on était donc très amis avec toute cette équipe-là, quand Mario et Roger ont fini leur pièce, on a enchaîné, nous, et on a joué un an aussi au Théâtre des 400 coups, notre pièce, voilà, Le plus beau métier du monde.
Donc, c'est revenu régulièrement après, au fil des années, le théâtre. Hein, voilà, il y a eu Les Trois Jeunes en 2005, Les Monologues du Vagin en 2008.
Voilà, après,
j'avais
pris
goût. Puis en 2010, comment ?
J'y avais pris goût.
Vous y avez pris goût. Et encore, d'ailleurs, en 2014, avec Ginette Garcin, Sophie Darel, Le Clan des Veuves.
Le Clan des Veuves, ça aussi c'était très sympathique à jouer.
Vous aimez jouer sans chanter, donc.
Oui, j'adore ça, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est du même acabit, mais c'est beaucoup plus rigoureux. Hein. Moi, je trouve quand on fait du théâtre, il y a beaucoup plus de travail que pour la chanson. La chanson, bon, on l'enregistrait, on l'a chantée 36 000 fois, ça va, quoi. Alors que le théâtre, c'est bon, faut tenir compte des partenaires et tout ça, c'est très rigoureux.
Oui. Et puis alors dans cette liaison, disons cette relation particulière avec Éric Chardin, finalement, vous vous êtes aussi au fil du temps retrouvé ensemble sur scène.
On ne s'est jamais quitté réellement. Parce que systématiquement, on nous demandait ensemble. Voilà, on nous demandait à refaire le duo. Alors voilà, il y avait toujours des propositions. Allez, quand est-ce que vous refaites? Et puis bon, on se laissait avoir. On se disait, en fond, c'est vrai, on a quand même ce capital qui n'est pas rien. Et qui est resté. Alors, si c'est resté encore maintenant, à l'époque, donc c'était encore très, très frais. Quoi,
et
très
vous aimez les spectacles de nostalgie, genre Achetant?
Oui, moi j'adore. D'ailleurs, après, Achetant a été bien arrivé au bon moment aussi par la suite, quoi. Ouais. Parce que c'était pile poil notre créneau, quoi, c'est ça.
Voilà, mais c'est un plaisir de revenir toujours avec ces vieux succès.
Mais l'avantage, c'est qu'avec Éric, on n'a jamais eu de problème, disons, entre nous, quoi, surtout dans la chanson. Donc voilà, après, il suffisait qu'on se mette d'accord, on chante à tel endroit. Pour nous, c'était vraiment tranquille, quoi. Il n'y avait pas à se casser la tête.
Alors, j'ai retrouvé une chanson. Alors là, c'est plutôt Chardin, mais je pense que on vous entend aussi. Je l'ai trouvé amusante à passer pour les auditeurs de France Musique. C'est en 72. Ça s'appelle Bac Populaire.
Ah oui, J.S. Bac Populaire.
J.S. Bac Populaire.
J.S. Bac, attention. Oui, parce que justement, Éric était très fan de Bac. Donc, il s'associe à ça. Il s'associe à Bac, carrément. Bah, youpi, hein.
Je m'appelle Jean-Sébastien et je compose de la musique très populaire. Ma femme qui fait cuire le lapin dans sa cuisine chante ma musique très populaire. Nos 12 enfants vont à l'école, ils marchent en sifflant ma musique très populaire. Et le dimanche sur de saintes paroles, les bons chrétiens chantent ma musique très populaire. Achetez J.S. Bach, écoutez J.S.
Vivaldi m'a traité d'arriviste. Il est jaloux, ma musique est plus populaire. Tous les athées deviennent des fidèles. Tout ça c'est grâce à ma musique très populaire. Je suis maintenant maître de chapelle. On dit que Bach c'est une vedette très populaire.
Achetez J.S. Bach, écoutez J.S. Bach, consommez du J.S. Bach. Achetez J.S. Bach, écoutez J.S. Bach, consommez du J.S. Bach. Achetez J.S. Bach.
J.S. Bach populaire, c'était Eric Chardin en 72. Eric Chardin qui nous a quittés relativement jeune.
Hein, c'est vrai, c'est vrai. Stone, oui, oui.
Il avait 69 ans, mais en tout cas, il laisse vraiment une œuvre de compositeur de chansons importante, outre vos duos si populaires. De votre côté, vous avez continué votre chemin, Stone, avec aussi d'autres passions auxquelles vous êtes consacré, par exemple la cause des animaux.
Oui, la cause des animaux, ça a toujours été pour moi extrêmement important. Et puis voilà, donc j'essaye de faire le maximum quand il y a moyen, et puis je travaille
avec...
C'est-à-dire,
plus précisément, qu'est-ce qui vous... préoccupe et vous occupe dans ce domaine.
Quand on s'intéresse à un sujet quel qu'il soit, on tombe sur des gens qui partagent la même passion. Et je suis tombée sur, donc, entre autres, Stéphane Lamarre, qui a une association très importante qui vient en aide aux animaux. Et donc, on essaye de faire le maximum pour aider les animaux. On nous appelle quand il y a des cas dramatiques, et il y en a énormément. Ah. Et on se déplace et on essaye de faire avancer les choses. On rencontre le maire du coin, le préfet de Lelar. Enfin, il y a toujours... et c'est vrai que moi, avec ma petite notoriété, c'est plus facile, disons, on m'accorde plus de crédit, disons, que si j'étais totalement inconnue, quoi.
Vous sentez proche de Brigitte Bardot, de ce point de vue ?
Ah, complètement. Moi, Brigitte Bardot, je l'aime, c'est mon idole, quoi, parce que j'ai trouvé qu'elle fait un travail exceptionnel. Et voilà, et on essaye de faire avancer le bouchon.
Et vous avez même publié, il n'y a pas très longtemps, en 2022, un petit livre qui s'appelle
«
Mes
amours à poil ».
À poil, ça veut dire les chats.
Chats et les chiens, parce que j'ai eu, bien sûr, toute ma vie plein de bêtes. Et Eric était aussi un passionné d'animaux, donc on a engrangé des chats, des chiens à gogo. Voilà. Ça a continué par la suite, donc pour moi, les animaux, c'est comme moi.
Et puis vous avez écrit, cette autobiographie co-écrite avec...
Yves Kitté.
Yves Kitté, qui est très, très, un livre très, très agréable et intéressant
gentil,
à lire sur votre, votre vie,
et
toutes les choses qu'on vient d'évoquer maintenant. Et notamment aussi ce coffret donc, qui sort. Vous êtes associée un peu, vous étiez contente, j'imagine, qu'on réédite tous ces titres qu'on ne trouvait pas facilement pour certains de vos premiers 45
mais Mathieu
tours.
Mathieu Moulin a fait un travail exceptionnel, parce que déjà récupérer tous ces titres, qui la plupart, ils ne sont pas récents, il fallait, vous savez, il y a toutes sortes de contrats, de matchs, de droits, tout ça, c'est très compliqué. Alors lui, il a fait un travail, j'avoue, exceptionnel pour arriver à regrouper tous ces titres, parce qu'il y en a beaucoup.
Mais oui, il y en a beaucoup, il y a 4 CD, alors là, vraiment, c'est l'œuvre complète de Stone et Chardin, et de Stone toute seule.
Oui, et d'Eric Chardin tout seul.
Et d'Eric Chardin tout seul, c'est sorti chez Marianne Mélodie. Écoutez, j'étais vraiment content
avec c'est
vous
sympathique,
à cette occasion.
Oui.
Et alors, en regardant comme ça, c'est drôle, parce que lui aussi est venu à ce micro, il n'y a pas si longtemps que ça, Gilles Dreux, connu pour son Alouette en 1968,
qui
est resté dans les mémoires. Et vous êtes amis depuis...
depuis cette époque là, on est depuis très longtemps.
Il n'était pas dans le Mayflower, lui.
Non, mais il aurait pu,
Il aurait pu. Et donc, vous vous êtes retrouvés au fil du temps, et vous avez fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite chanson ensemble, en duo. C'est pas Stone et Chardin, c'est Stone et Dreux.
Et Dreux, il m'a proposé de chanter avec lui, j'étais ravie. Et on a fait d'ailleurs deux ou trois spectacles ensemble où on chante cette chanson avec joie.
On pourra vous revoir sur scène
Je continue à faire des galas.
Bientôt, prochainement
J'en fais un le 2 avril à Bobino, puisqu'il y a une soirée spéciale années 80 où je fais partie de la bande. Voilà. Mais là, chacun chante une chanson, quoi, parce qu'on est très nombreux. Et puis, je refais un autre spectacle le 13 avril dans mon coin, là-bas, près de Clermont-Ferrand, à Pont-du-Château.
Parce que vous partagez toujours votre vie un peu entre l'Allier d'origine et puis
Alors
Paris.
Là, le prochain spectacle, ça sera avec Baptiste.
Baptiste.
Baptiste Chardin. Et on a même Jonathan Dassin en première partie.
Ah, ben bah voilà, les enfants.
De Jo. Oui, on a l'impression que c'est les fils d'eux, mais c'est ça. Jonathan Dassin aussi, qui chante comme son père et reprend les titres de son père et des chansons à lui. Formidable. Donc, ça se marie bien, quoi, entre nous.
Ah, ben bah voilà, des beaux projets, une activité
oui, des beaux
qui
projets,
ne s'arrête
oui,
pas.
Oui.
C'est une joie de vous voir en si bonne forme.
Ben, merci, ça fait plaisir. Et puis aussi les salons du livre. Moi, je cours les salons du livre, comme je vous disais, hors antenne. Je suis une grande fan des auteurs dont vous faites partie.
C'est gentil.
Et je suis toujours très émerveillée quand je tombe, parce que moi, j'ai lu tellement de livres de tous ces gens-là que pour moi, c'est un peu comme un chanteur qu'on a écouté les uns, puis on le rencontre à un moment. Alors, j'adore ça, quoi. Faire les salons du livre, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Ben, merci, Stone, pour ce moment passé ensemble. Ouais. C'est très
merci,
agréable.
Merci, c'est gentil, c'est très sympa.
Et j'espère à bientôt. On vous retrouve tout de suite dans Prends ta guitare avec Gilles Dreux.
Prends ta guitare, joue ses accords, chante les mots qui nous faisaient perdre la tête parfois. Et si tu oubliais ton alouette, la 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 la.
Viens, assieds-toi tout près de moi, avec ta voix tu fredonneras Pénilène. Tu vois, mon médiateur, lui, n'a rien oublié de tous ses airs. Et si on chantait Yesterday ou Lady B en se promenant dans London, ensemble, au bord de la Tamise, main dans la main, avec Eljou qui se fredonne et le vieux Big Ben qui résonne. Allez, joue-la comme Harrison ou John Lennon.
Et joue les notes de ces années où la musique devenait folle pour nous, suspendant le temps une énième fois. La 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 la.
Me regarderais-tu encore comme ce Paul, ce McCartney qui nous rendait jaloux, avec ses petits airs d'anglais qui nous rendaient. Si on chantait Yesterday ou Lady B en se promenant dans London, ensemble, au bord de la Tamise, main dans la main, avec Eljou qui se fredonne et le vieux Big Ben qui résonne. Allez, joue-la comme Harrison ou John Lennon, comme McCartney ou John Lennon, comme Ringo Starr ou John Lennon, ou John Lennon.
Prends ta guitare, c'était Stone en duo avec Gilles Dreux. Stone qui était mon invité ce matin à l'occasion de la parution chez Marianne Melody du coffret Stone et Chardin, anthologie des 45 tours 1971-1982. Et puis pour nous quitter, eh bien j'ai choisi quelques jolies pages de musique symphonique légère du grand Adolphe Adam. On connaît tous Gisèle, mais il a écrit beaucoup d'autres ballets et en particulier celui-là que j'écoute continuellement en ce moment tellement je trouve ça réussi. Ça s'appelle La Fiole des Fait. Et c'est un ballet de 1849 qu'on va écouter maintenant dans la version de l'orchestre symphonique de Queensland sous la direction d'Andrew Mogrelia. quelques pages de La Filleule des Fées, ballet méconnu d'Adolphe Adam, heureusement édité chez Naxos par l'Orchestre Symphonique de Queensland sous la direction d'Andrew Mogrelia. Et c'est la fin d'Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte que vous pouvez retrouver sur francemusique.fr et sur l'appli Radio France. Un programme préparé par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Julie Garraud, réalisation David Travailleur. Et la semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir d'accueillir la compositrice Isabelle Aboulker. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sans plus attendre, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.